aujourd'hui à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition du lundi 30 septembre 2019, en direct de Washington, Eric Manirakiza, pour commencer les titres. Début du dialogue national au Cameroun sans les principaux chefs séparatistes.
Le 5 octobre, il n'y aura pas une baguette magique qui va remettre tout en place, mais nous aurons pris la direction pour asseoir durablement.
Au Mali, attaque contre deux postes de l'armée proches de la frontière avec le Burkina Faso, deux civils tués. En Somalie, les Chebab ont attaqué une base américaine et un convoi de l'Union européenne. En France, ultime adieu à Jacques Chirac, l'ex-président français, en présence de nombreux dirigeants étrangers. Pour l'instant, le journal. Je vous le disais dans les titres, ouverture ce lundi au Cameroun du grand dialogue national pour tenter de mettre un terme à la crise dans les deux régions anglophones. Ce dialogue voulu par le président Paul Biya s'est toutefois ouvert en l'absence des principaux leaders séparatistes. Abdourahmane Dia.
Les travaux, qui doivent durer 5 jours, ont été lancés ce matin en présence du Premier ministre Joseph John Nguté. Après avoir reçu des gens depuis 2 semaines en préparation de ce dialogue, je ne peux qu'être optimiste car je pense que 99% des Camerounais veulent la paix, avait déclaré hier le Premier ministre. Depuis 2017, des revendications sociales des populations anglophones qui s'estiment lésées par rapport aux 8 régions francophones se sont muées en un conflit meurtrier. Certains anglophones exigent le retour au fédéralisme alors que d'autres réclament la partition du pays, 2 scénarios rejetés par le président Paul Biya. L'annonce de ce dialogue a toutefois suscité l'espoir parmi des anglophones plus modérés comme l'influent archevêque de Douala, le cardinal Christian Toumi. Mais Marc Beratta, un des sécessionnistes très actifs sur les réseaux sociaux, a affirmé que la seule façon de mener de véritables négociations était de le faire sur un terrain neutre. Les principaux leaders séparatistes ont été jugés pour haute trahison et condamnés à la prison à perpétuité.
Abdourahmane Dia, 2 postes de l'armée malienne proche de la frontière avec le Burkina Faso ont été attaqués aujourd'hui par de présumés djihadistes, ont indiqué les forces armées maliennes. L'armée ne donne pas de détails, mais des sources locales font état de 2 civils tués lors d'une de ces attaques. Les précisions de Kassim Traoré.
Les postes des forces armées maliennes de Mondoro et de Boulkessi ont été attaqués respectivement à 1h et 4h30 selon la page officielle des FAMA. Au moins, 2 civils ont été tués à Mondoro, selon des sources locales. Dans la nuit, les djihadistes armés sont venus à Mondoro. Ils sont allés dans le PC, le poste de commandement du camp, situé à l'est. Ils ont tiré. L'armée malienne a reculé. Les tirs des djihadistes ont tué 2 civils et en ont blessé 3, explique un conseiller communal de Mondoro. Le bilan de l'attaque est de 2 morts et de 3 blessés par balle, de 2 véhicules pick-up avec des munitions, 2 chameaux et 12 vaches ont été emportés par les djihadistes, a confirmé une source au niveau du centre de santé communautaire de la ville. Aucun bilan n'est encore disponible à la mi-journée pour l'attaque contre le camp de Boulkessi qui a été la cible de tirs d'obus selon un habitant. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, un journaliste et opposant au Moyele Sowore a plaidé non coupable de plusieurs chefs d'inculpation, dont trahison et de cyberharcèlement contre le chef de l'État. La haute cour fédérale d'Abuja a décidé son maintien en détention préventive. La situation de Sowore a soulevé l'indignation dans les milieux intellectuels nigériens. Des figures comme le prix Nobel de littérature Wole Soyinka ont dénoncé les atteintes aux droits individuels. La police de Lagos a secouru aujourd'hui 19 jeunes filles enceintes âgées de 15 à 28 ans, dont les enfants, selon la police, étaient destinés à être vendus. Toujours selon la police, ces enfants étaient vendus à 760 euros pour les filles, 1265 euros pour les garçons. Le trafic humain est le 3e crime le plus répandu au Nigeria, derrière la fraude et le trafic de drogue. Le chef de la diplomatie burundaise, Ezekiel de Nivigira, a mis en garde l'ONU contre toute velléité d'intervenir dans l'élection présidentielle de 2020 qui serait considérée comme une atteinte à sa souveraineté. Le processus électoral est une affaire interne et en cas d'accompagnement international, il ne doit pas donner droit à des actes d'interférence, a-t-il souligné devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les civils ougandais n'ont désormais plus le droit de porter un béret rouge, utilisé comme symbole de résistance par l'opposant et chanteur Bobby Wine. Le gouvernement a publié aujourd'hui une liste de vêtements et accessoires militaires officiels, dont le béret rouge, soulignant que leur possession par des civils est passible d'une peine de prison ne pouvant pas excéder les 5 ans. L'opposant Bobby Wine n'a pas réagi à l'annonce, mais un responsable de son mouvement a affirmé qu'ils vont braver cette interdiction. Le gouvernement tanzanien a annoncé aujourd'hui que 467 personnes poursuivies pour crimes économiques avaient accepté de plaider coupables et de rembourser en échange de leur libération dans le cadre d'une amnistie annoncée par le président John Magufuli. Le 22 septembre, M. Magufuli avait donné 7 jours pour passer ce type d'accord aux personnes emprisonnées pour crimes économiques ne pouvant faire l'objet d'une libération sous caution et dont le procès n'a pas encore eu lieu. En Somalie, les insurgés islamistes Shebab ont mené un assaut contre une base de l'armée américaine au nord-ouest de Mogadiscio. Ils ont aussi attaqué un convoi militaire de l'Union européenne dans la capitale. Yacouba Ouedraogo.
Deux explosions suivies d'échanges de coups de feu ont été entendues dans la base de Balé Doglé, à 100 km de Mogadiscio. Cette installation abrite l'armée nationale et des conseillers américains formant les commandos somaliens. Dans un communiqué, les Shabab disent avoir fait des dizaines de morts. Ce bilan a été démenti par l'armée qui dit n'avoir perdu aucun soldat, affirmant avoir déjà été informé de l'attaque et a repoussé les assaillants avant qu'ils n'atteignent ces barrières. La mission américaine a confirmé l'attaque sans donner plus de précisions. Dans la capitale Mogadiscio, un véhicule piégé a heurté un convoi de militaires italiens de la mission de formation de l'Union européenne. Cette attaque a aussi été revendiquée par les Shabab. Elle n'a fait aucune victime selon le ministère italien de la Défense. La base de Balé Doglé est utilisée par l'armée américaine pour ses frappes aériennes à l'aide de drones contre les Shabab et le groupe État islamique. En avril, AFRICOM, commandement militaire américain pour l'Afrique, a annoncé avoir tué ces deux dernières années 800 personnes dans 110 attaques aériennes en Somalie.
En Tunisie, le tribunal administratif a rejeté en appel 5 recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle, confirmant la victoire de l'homme d'affaires Nabil Karoui et de l'universitaire Kais Saied Hasna Ben Sliman, une responsable de l'instance chargée des élections, a annoncé le second tour pour le 13 octobre. Et le premier championnat féminin de football de l'histoire du Soudan a débuté ce lundi par un match au stade de Khartoum, chaleureusement applaudi par les supporters. Cette ligue féminine, qui comprend 21 clubs, est une première dans ce pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a suggéré aujourd'hui d'arrêter pour trahison le parlementaire démocrate Adam Schiff, qui supervise l'enquête parlementaire en vue de sa destitution. Le démocrate a comparé le président Trump à un chef mafieux après la publication mercredi de la transcription d'un échange téléphonique avec son homologue de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Et John Bolton, le conseiller déchu de Donald Trump à la sécurité nationale, a étalé aujourd'hui pour la première fois depuis son limogeage ses désaccords avec la stratégie nord-coréenne du président américain et plus largement sur le désengagement des États-Unis de la scène mondiale. La France a adressé un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac. Il a été inhumé dans la plus stricte intimité à Paris après avoir reçu un hommage en présence de quelques 80 dignitaires étrangers, dont Vladimir Poutine. Le point avec Bagassi Koura.
Selon le souhait de son épouse Bernadette, Jacques Chirac repose au cimetière du Montparnasse dans le caveau de leur fille aînée Laurence, décédée en 2016 et dont le destin tragique a été le drame de sa vie. L'ancien président est décédé le 26 septembre à l'âge de 86 ans. À la mi-journée, le cercueil de l'ancien président recouvert du drapeau français a été placé dans l'église Saint-Sulpice sous les yeux de quelques 2000 invités. 80 dignitaires étrangers, dont le russe Vladimir Poutine ou Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, d'anciens dirigeants comme Bill Clinton ou le Sénégalais Abdou Diouf, des membres de familles royales, ont également fait le déplacement. Le président Emmanuel Macron a ensuite reçu à l'Élysée nombre de ses visiteurs pour un déjeuner. Ce lundi a été décrété journée de deuil national en France avec une minute de silence dans les administrations et les écoles.
Le ministre des Finances britannique Sajid Javid a affirmé aujourd'hui sur la BBC qu'il ne pensait pas que quelqu'un sache vraiment combien coûterait à l'économie du Royaume-Uni un Brexit sans accord qui reste selon lui une possibilité. En Afghanistan, Abdullah Abdullah, principal rival du chef de l'État Ashraf Ghani, à l'élection présidentielle qui s'est tenue samedi, a revendiqué la victoire aujourd'hui sans attendre les résultats officiels. La commission électorale indépendante, qui n'a pas encore publié le chiffre de la participation au premier tour, a vivement réagi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, la minute co-signée Nanit Talani.
En Côte d'Ivoire, la compagnie australienne Exxon Resources a conclu un accord avec Smart Mineral Exploration pour acquérir une participation de 80% dans un permis d'exploration aurifère couvrant 380 km² dans le nord du pays. Exxon devrait dépenser 1 million de dollars sur 3 ans pour acquérir ses 80% des parts. La société a le droit d'augmenter ses intérêts à 90% si elle réalise une étude de faisabilité définitive pour le projet. Le budget de la Tunisie atteindra près de 14 milliards de dollars en 2020 contre 16,4 milliards de dollars en 2019. Le déficit devrait atteindre 3% du PIB contre 3,9% cette année. Pour terminer, la principale société de paris sportifs au Kenya, SportPesa, cessera ses activités. Elle dénonce le cadre fiscal et les réglementations imposées par le gouvernement. Le ministère kényan des Finances a introduit une taxe de 20% sur tous les paris. Cette taxe s'ajoute à celle de 30% déjà imposée sur les sociétés et 20% sur les revenus tirés des paris sportifs.
Et sans transition, nous passons à la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
On commence avec les championnats du monde d'athlétisme. La Nigériane Aminatou Seyini, privée du 400 mètres. Qu'est-ce se passe-t-il, Yacouba?
Et oui, Eric, la spécialiste africaine de l'épreuve, où elle détient le troisième temps de la saison, n'a pas pu s'aligner sur le tour de piste à cause du nouveau règlement sur les athlètes hyperandrogènes. Oui, on m'a interdit de participer aux 400 mètres, a déclaré Aminatou Seyini en zone mixte. Après avoir couru les séries du 200 mètres, une distance où elle est moins performante, c'est à cause du nouveau règlement de l'I2AF, comme pour Castel Semenya, a ajouté de l'athlète nigériane. Depuis mai, un nouveau règlement de l'I2AF demande aux athlètes féminines hyperandrogènes de suivre un traitement pour faire baisser leur taux élevé de testostérone pour pouvoir concourir sur les distances allant de 400 mètres au 1000. L'I2AF estime que ces athlètes ont un avantage physiologique injuste sur les autres.
Athlétisme toujours, Marie-Josée Talou, forfait sur le 200 mètres.
Après avoir remporté hier sa médaille de bronze, l'Ivoirienne doit mettre un terme à ses mondiaux d'athlétisme. D'après la Fédération Ivoirienne d'athlétisme, elle a terminé les 100 mètres avec un genou douloureux et en accord avec son kinéthérapeute, elle a décidé de renoncer aux 200 mètres. Talou a décroché le bronze en 10 secondes 90 derrière la Jamaïcaine Fraser Price 10 secondes 71, meilleure performance de l'année, et la Britannique Dina Hacher Smith, deuxième avec un record national 10,83. L'autre Ivoirienne, Muriel Aouré, a terminé à la cinquième place de la finale avec 11,02.
En triple saut, Fabrice Zango inscrit son nom dans l'histoire.
Il est devenu le premier Burkinabé médaillé au championnat du monde d'athlétisme avec un bond de 17,66 m, un record sur le continent qui attendait une médaille au triple saut aux mondiaux depuis 36 ans. Fabrice Zango a fini troisième derrière les Américains Christian Taylor, en or avec 17,92 m et Clay 17,74 m. C'est un grand soulagement pour le champion d'Afrique des récents Jeux africains Maroc 2019. On écoute Fabrice Zango.
Moi, c'est d'abord le sentiment de soulagement et ensuite de la joie forcément parce que j'écris une des plus belles pages de l'histoire du sport de mon pays. Et justement, moi, c'est... C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie vraiment immense.
Et on enchaîne directement avec le gouvernement centrafricain qui finalement est d'accord sur le choix de François Zaoui.
Les choses sont rentrées dans l'ordre après un entretien entre Célestin Yanidji, président par intérim de la Fédération centrafricaine de football, et Régis Léonel Dunda, ministre des Sports. Je vous le confirme, François Zaoui est le sélectionneur national et d'ici 2 mois, nous allons avoir un contrat formel avec lui, avec l'aide du ministre, a confié Yanidji.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manilakiza, nous abordons les dossiers du jour. Au Cameroun, le grand dialogue national voulu par le président Paul Biya a été lancé ce matin. Le pouvoir veut tenter de mettre un terme au conflit meurtrier entre Yaoundé et des séparatistes anglophones dans l'ouest du pays. La rencontre va durer 5 jours et ce matin, la cérémonie d'ouverture a été marquée notamment par la prise de parole de 2 ex-combattants qui a suscité des réactions diverses. De Yaoundé, la correspondance de Emmanuel Jultap.
C'est l'intervention du jeune Kawayani qui semble avoir le plus marqué l'assistance lors de l'ouverture du Grand Dialogue National ce matin. Yannick est un ex-combattant dans les zones anglophones. Il a improvisé une partie de son intervention et arracher des acclamations.
Que s'est-il passé pour que nous prenions les armes contre notre nation? Nous étions traités comme des citoyens de basse classe dans notre patrie. Certains parmi nous sont des vieux diplômés. Certains parmi nous sont instruits, mais nous n'avons pas de travail dans notre patrie. Il y a des sociétés situées aux alentours de nos régions, mais la plupart de ces sociétés sont dirigées par les Camerounais d'expression française. Nous, dans notre propre région, nous n'avions pas la possibilité de travailler dans ces sociétés.
Comme Yannick, 29 autres ex-combattants ont assisté à la cérémonie d'ouverture du Grand Dialogue National. Une jeune combattante démobilisée a pour sa part demandé pardon pour avoir pris les armes contre la nation. Ces 2 interventions n'ont pas laissé les participants au dialogue national indifférents. Patricia Ndamjoya, députée de l'Union démocratique du Cameroun.
À travers le message des ex-combattants, on ne saurait être plus clair. Il faut sortir de ce dialogue. Le 5 octobre, il n'y aura pas une baguette magique qui va remettre tout en place. Mais nous aurons pris la direction pour asseoir durablement le Cameroun.
Fon Tita, de la Cameroun People's Party, semble moins convaincu par la prise de parole de ses ex-combattants.
Les ex-combattants, là, ce sont les enfants qui ne connaissent même pas les problèmes des Anglos. Moi, je pense très bien que c'est quelqu'un qui a préparé ça.
Les participants au Grand Dialogue doivent entrer dans l'histoire, a martelé le Premier ministre. Mais certains émettent déjà des réserves sur une véritable sortie de crise à l'issue du dialogue. Denis Kwemelo, secrétaire général à la communication du Social Democratic Front, un parti de l'opposition.
On a l'impression que les consultations n'étaient pas prises en compte parce qu'on a donné nos positions préliminaires, mais on n'a pas vu dans les commissions une commission chargée des formes de l'État. Alors que tout le monde sait que le problème ici, c'est à cause de la forme de l'État actuelle qui n'est pas appropriée pour encadrer notre diversité.
Le Premier ministre a tracé le canevas des discussions qui seront menées dans l'esprit de la constitution actuelle. Joseph Dion Nguté, Premier ministre du Cameroun.
Tout au long de cette semaine, nos échanges porteront sur le bilinguisme, la diversité culturelle et la cohésion sociale, le système éducatif, le système judiciaire, l'aide au retour des réfugiés et des personnes déplacées, la reconstruction et le développement des régions touchées par la crise, le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants issus des groupes armés, le rôle de la diaspora dans la crise et la contribution au développement du pays.
Des discussions générales et celles en commission sont aussi au centre des travaux du Grand Dialogue qui s'achève ce vendredi. Dit Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Je vous donne rendez-vous à 18h05 temps universel dans À votre avis. Le Grand Dialogue National a été lancé au Cameroun à l'initiative du président Paul Biya. Il vise à mettre un terme au conflit meurtrier qui secoue la partie anglophone depuis 2017. Toutefois, les travaux ont démarré sans la participation des principaux dirigeants séparatistes. Pensez-vous que le dialogue national aura des chances d'aboutir à la paix Laissez-nous vos numéros et commentaires sur notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33 ou 001 202 205 43 93.
Le président sénégalais Macky Sall a gracié hier l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, qui était en prison depuis 2 ans et demi. Il avait été condamné en août 2018 à 5 ans d'emprisonnement pour faux en écriture de commerce et escroquerie portant sur les deniers publics. Seydina Abagay a recueilli quelques réactions dans la ville de Dakar.
D'après mon point de vue, j'ai remarqué que la paix est revenue ici au Sénégal. En plus, j'ai remarqué que tout le pays était content hier. D'après les médias qui ont interviewé pas mal de personnes, il y avait aussi pas mal de personnes qui l'avaient suivi jusqu'à chez lui. Il y en a qui ont marché à pied, il y en a qui ont... C'est pas trop tôt, quoi. Pour moi, c'est trop tard. Khalifa Sall est un homme honnête. Il est digne de lui. Parce que quand on lui a demandé de signer le papier, il a toujours refusé. Et jusqu'à présent, il nie avoir demandé la grâce à monsieur le président Macky Sall. Et pour nous, pour moi, ça, c'est une fierté pour tous les Sénégalais.
Moi, je suis pas un politicien et vraiment, on va parler de ça aussi. C'est vrai, comme tu m'avais demandé, j'ai au courant de ça aussi. Et en plus, ce que Macky Sall a fait là, vraiment, moi, ça m'a plaisé. Comme il est libéré, maintenant, on sait que oui, ça va aller dans notre pays ici à Dakar.
Bon, ça, bon, je pense que on est très content en tant que citoyen. On est content de ça parce que vu avec comment on l'a libéré et comment on l'a fait, bon, c'est quelque chose que tout en chacun, bon, et doit être content, quoi. Parce que nous tous, nous sommes des citoyens et nous habitons dans le pays là. Mais en ce qui me concerne, bon, je suis content parce que Khalifa Sall est un homme politique et il joue un rôle très important dans ce pays là. Raison pour laquelle quand on a aperçu qu'il est sorti, bon, on est content de ça. Et on prie pour lui, pour que dans le lendemain meilleur qu'il soit, bon, le futur président, parce qu'il le peut, ouais, il a une potentialité, et il a la capacité aussi, et il peut le gérer aussi.
FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Au Bénin, malaise au sein du parti de l'ancien président béninois Yayi Boni. Le parti est divisé depuis que le ministère de l'Intérieur a délivré à une faction de cette formation politique le document qui rend son existence légale selon les dispositions de la charte des partis politiques. Les détails dans cette correspondance à Cotonou avec Ginette Fleur-Adandé.
C'est au cours d'une conférence de presse dimanche que des cadres du parti ont rejeté le récépissé délivré par le ministre de l'Intérieur, Sakala Fia. Ils pensent que le Congrès ayant éjecté les principaux responsables du parti tels que Yayi Boni, Valentin Djanotin et Komi Koutché, s'est fait en catimini et ne respecte pas les tests du parti. Pour Genazata Sou, coordonnateur au plan national des forces coréennes pour un Bénin émergent, ce certificat qui circule n'est pas celui du parti dont il est le coordonnateur.
Nous rejetons ce fameux congrès qui aurait élu Paul Humpe comme secrétaire exécutif national. Et ce n'est pas un jeu. Ils ont pactisé avec l'adversaire pour détruire le parti. Parce que dans tous les cas, ça introduit un débat au niveau du parti. Ils vont répondre absolument devant les instances.
Le président Yayi Boni, depuis la France, a déploré qu'une telle étape importante de la vie du parti ait été franchie avec ruse dans une démarche visant à affaiblir la résistance que mène l'opposition à laquelle appartient le parti pour le retour de la démocratie et la paix au Bénin. Les cadres du parti sont clairs. Ce certificat est de nul effet et ne saurait donner mention à quiconque de représenter le parti. Selon Dr. Adam Sounon, membre du bureau politique, ce certificat délivré par le ministère est un faux papier.
C'est un faux papier tout simplement parce que la démarche qui a conduit à sa délivrance n'est pas celle recommandée ni par les tests du parti FCBE, moins encore par la charte des partis. Qui vous souviennent, aujourd'hui, sur la base d'un congrès constitutif dont personne n'a connaissance, ni du lieu, ni de la date, ni du jour, ni des participants de sa tenue, on délivre un récépissé. Pour nous, c'est un faux papier qui ne peut servir en aucun cas à prendre part à aucune compétition politique au Bénin.
Poulel, ayant obtenu le précieux document, il fallait aller vite afin de donner une base légale au parti qui, sans le certificat de conformité, ne faisait pas le poids sur l'échiquier politique au Bénin. Paul Ronquet est le nouveau secrétaire exécutif national du parti.
Il n'existe qu'un seul parti FCBE aux yeux de l'État aujourd'hui. Et donc, nous tous, nous sommes dedans. Donc, je crois que le reste, c'est des soubresauts de gens qui pensent qu'on peut utiliser d'autres moyens pour dégager le pouvoir, mais nous, on pense que ce n'est pas la voie démocratique.
Cette crise liée à la délivrance du certificat de conformité aura révélé au grand jour des divergences profondes au sein du parti qui se proclame chef de file de l'opposition. De Cotonou, Zinet Louadandé pour VOA Afrique.
Les différents quartiers de la ville de N'Djamena sont insalubres. Le cas le plus criant est le quartier Ardep Djomal, dans la commune du 3e arrondissement municipal. Des odeurs nauséabondes, des ordures ménagères déposées de façon anarchique par la population riveraine a provoqué une protestation des étudiants des institutions universitaires la semaine dernière. De N'Djamena, la correspondance est signée André Kodmajinga.
Situé dans la commune du 3e arrondissement de la ville de N'Djamena, Ardep Djombal, un vieux quartier de Fort-Lamy devenu N'Djamena, capitale du Tchad en 1972, baigne dans l'insalubrité la plus totale. Et pourtant, ce quartier abrite plusieurs institutions de l'enseignement supérieur, un centre d'études et de formation pour le développement, un marché et un centre de santé, entre autres. Des correspondances ont été initiées par ces étudiants demandant à la commune du 3e arrondissement d'enlever ces ordures, mais sans succès. Face à l'inaction des autorités communales, les étudiants de l'Université de N'Djamena et les élèves de l'école normale supérieure ont ramassé ces ordures pour les brûler sur les voies publiques. Une protestation qui a finalement payé. Les autorités de la mairie centrale elles-mêmes ont mobilisé les ressources humaines et matérielles pour enlever ces ordures afin de calmer les étudiants.
Nous nous sommes donné les moyens de dégager ces ordures et les déposer sur le gouvernement pour prouver la mauvaise foi du gouvernement puisqu'ils disent qu'ils n'ont pas vu ce qui se passe. Parce que pourquoi nous on a décidé de montrer que voilà les ordures là sont là et pouvez voir sur le gouvernement puisqu'ils ne passent pas dans nos couloirs pour voir.
Voilà ça pue. Dans les salles, on reçoit des odeurs nauséabondes, des odeurs qui ne permettent pas aux enseignants d'abord d'accéder aux salles pour dispenser le cours. Des filles surtout qui sont en grossesse, qui sortent, qui vomissent, qui tombent ci et là.
Vraiment, on a été exposés à de diverses maladies. On était vraiment mal à l'aise.
Pour le directeur en charge de l'assainissement de la mairie centrale, Gatingar Roasna Rodrigue, la responsabilité est partagée. Car, dit-il, ce n'est pas pour la première fois que l'enlèvement d'ordures ont lieu dans cette commune.
Cela est dû, d'une part, de l'incivisme de la population, mais cela est dû également à la responsabilité de la commune du 3e arrondissement qui ne veille pas pour que les gens déposent des ordures n'importe où. Ce qui est marrant, c'est que les communes d'arrondissement qui sont chargées de collecter ces ordures dans les ménages, peut-être ne font pas bien leur travail. C'est pour ça que les gens sont obligés de se débarrasser donc de ces ordures-là pour les mettre là où nous sommes.
Accusation que rejette le maire adjoint de la commune du 3e arrondissement, Babi Kirkulamala.
Ça fait 7 ans que la commune du 3e est là. Elle ne va pas être jugée par rapport à cette activité-là. Mais que chacun, quand on a des prérogatives, il faudrait qu'on puisse les exercer. Si moi, en tant que maire, je ne peux pas faire le boulot qui est le mien, ce n'est pas normal. Je réponds à votre question, on a été informé, mais on n'a pas répondu aux doléances des étudiants. Maintenant, est-ce que la commune du 3e a les moyens de faire ce travail-là? Je vous dis non.
Pendant que les autorités de N'Djamena veulent faire de cette ville la vitrine de l'Afrique, certaines populations continuent de polluer les rues, rendant ce rêve difficile. André Kodmadingar, N'Djamena, VO Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Ainsi va le monde aujourd'hui. VO Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition de 17h30 en temps universel. Merci de l'avoir suivi. À la console, Michael Dubinsky. Merci à Georges et Léonard Sagno pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manila Pizza à la présentation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À l'écoute de VO Afrique.
VOA Afrique.